Laudetur Jesus Christus.
Un rare témoignage de retour de l'enclave palestinienne, celui des patriarches latins et grecs orthodoxes de Jérusalem. On y revient dès le début de ce journal. Plus de 1200 morts dans les violences entre druzes et bédouins sunnites dans le sud de la Syrie. Nous irons à la rencontre de familles bédouines déplacées. Puis direction le Pakistan, les accusations de blasphème se multiplient sur fond d'escroquerie. La justice ouvre une enquête. Et puis enfin le Cambodge réalise un sursaut militaire. Et cela passe par un volet de lutte contre la cybercriminalité. Un dossier, nous l'entendrons, hautement géopolitique.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour à toutes et à tous. Le cœur brisé, c'est ainsi que les patriarches latins et grecs orthodoxes de Jérusalem sont revenus de Gaza. Le cardinal Pizzaballa et sa béatitude Théophile III l'ont confié ce matin lors d'une conférence de presse pour relater ce qu'ils ont vu après le bombardement par l'armée israélienne jeudi dernier de la paroisse latine de la Sainte Famille à Gazaville. Ils ont pris tour à tour la parole, ont prononcé des mots forts, soulignant qu'au-delà des destructions, au-delà des morts et des souffrances, le Christ n'était pas absent de Gaza, Xavier Sartre.
Oui Marine, les patriarches ont été témoins d'un paradoxe. Ils ont visité un lieu dévasté mais aussi empreint d'une merveilleuse humanité. Comme l'a dit le cardinal Pizzaballa, ils y ont rencontré un peuple écrasé par le poids de la guerre mais qui porte en lui l'image de Dieu, a confirmé Théophile III, la dignité de l'esprit humain qui refuse de s'éteindre, a précisé le patriarche latin. Pour le cardinal, le Christ est là, crucifié dans les blessés, ensevelis sous les décombres, mais présent dans chaque acte de miséricorde, chaque bougie dans l'obscurité, chaque main tendue vers ceux qui souffrent. Nous avons été témoins à la fois d'un profond chagrin et d'un espoir inébranlable, a complété Théophile III. Face à ce tableau, la mission des patriarches n'était pas de nature politique ou diplomatique, mais pastorale, ont-ils précisé. L'Église, toute la communauté chrétienne ne les abandonnera jamais, a assuré le cardinal Pizzaballa. C'est pourquoi ils exhortent les dirigeants du monde entier à agir pour arrêter la guerre, rappelant leur position sur ce conflit. Il ne peut y avoir d'avenir fondé sur la captivité, le déplacement des Palestiniens ou la vengeance. Il doit y avoir un moyen de restaurer la vie, la dignité et toute l'humanité perdue, a affirmé le cardinal Pizzaballa. Quant à sa béatitude Théophile III, il a déclaré que le silence face à la souffrance est une trahison de la conscience.
Merci Xavier Sartre. Et plus d'informations sur cette visite du cardinal Pizzaballa et de sa béatitude Théophile III à Gaza sur notre site internet. Et dans la lignée du gouvernement sud-africain et d'autres chancelleries, les évêques d'Afrique australe estiment à leur tour que l'opération d'Israël dans la bande de Gaza est, je cite, un génocide et un nettoyage ethnique. Les évêques d'Afrique australe qui annoncent ainsi soutenir la plainte de l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice. On reste au Moyen-Orient, à Souaïda, dans le sud de la Syrie. Les combats des dernières semaines entre des groupes druzes et des bédouins sunnites ont fait 1260 morts selon un bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et ces derniers jours, les combats se poursuivent dans le centre-ville de Souaïda. Sur place, les civils restent en danger. Les évacuations de civils sunnites ont commencé, mais des centaines de familles bédouines sunnites installées à Souaïda depuis plusieurs années avaient fui sans aide, parfois prises pour cible par des miliciens druzes. Mohamed Erami a rencontré ces familles sunnites bédouines.
Dans une pièce sans matelas ni électricité, Fatima Abdousliman, 30 ans, s'occupe de son bébé d'à peine une semaine. Elle a accouché le jour même où les affrontements ont commencé.
Moi, j'ai accouché ma fille lundi dernier, le premier jour des affrontements. On s'est enfui de Souaïda à 11h du soir, en pleine nuit, pour que personne ne nous voie. La mort est partout là-bas, c'est trop dangereux.
Pas de convoi, pas d'assistance, ces familles fuient par leurs propres moyens. Fatima accuse des groupes armés druzes de viser directement les civils sunnites.
Les miliciens druzes veulent en découdre. Ils tuent sans hésiter. Les hommes sous le commandement du cher Imam al-Iri tirent sur tous les hommes et les enfants tant que c'est un sunnite.
Comme elle, des centaines de femmes ont fui en pleine nuit, sans chaussures, sans vêtements de rechange.
Moi, j'ai dû abandonner ma maison, mes affaires. J'ai fui à 1h du matin, pieds nus. Ça fait 5 jours que je suis ici et je porte toujours les mêmes vêtements.
Fatima et les autres sont originaires de Deir ez-Zor. Elles étaient venues à Souaïda pour fuir la guerre et chercher du travail. Aujourd'hui, elle fut à nouveau victime d'un conflit qui les dépasse.
Un reportage de Mohamed Erami. 80 dossiers déposés pour la présidentielle au Cameroun. Les LECAM, l'organe en charge de l'organisation de l'élection, doit maintenant les analyser. Sont en lice Paul Biya au pouvoir depuis 43 ans, mais aussi son principal opposant, Maurice Kamto. La présidentielle au Cameroun aura lieu le 12 octobre. Une nouvelle session de pourparlers entre l'Ukraine et la Russie débuteront demain à Istanbul. Après l'échec de ceux tenus au printemps, les discussions auront d'abord lieu sur des échanges de prisonniers, puis sur une éventuelle rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Mais ce matin, le Kremlin a averti, il ne faut pas s'attendre à des avancées miraculeuses. La justice pakistanaise ordonne au gouvernement de lancer une commission d'enquête autour de la loi du blasphème. Le nombre de cas a explosé ces dernières années sur fond d'escroquerie, un abus auquel les juges veulent mettre fin. Les précisions de notre correspondant dans la région, Emmanuel Derville.
L'arrêt de la Haute Cour d'Islamabad intervient alors que les affaires de blasphème explosent depuis 2 ans. La Commission nationale des droits de l'homme avait tiré la sonnette d'alarme dans un rapport l'année dernière. D'après ses recherches, 767 personnes étaient en prison à l'été 2024, 3 fois plus en un an. Depuis son durcissement dans les années 80, la loi du blasphème a toujours servi à des règlements de comptes. Le nombre de personnes incarcérées dans ce genre d'affaires se comptait en dizaines. Le développement des réseaux sociaux a favorisé l'émergence d'un nouveau type d'escroquerie. Les victimes, de jeunes hommes, se retrouvent piégées et partagent des contenus blasphématoires alors qu'ils se lient d'amitié sur WhatsApp avec des femmes de leur âge. Arrêtés par des islamistes, ils sont ensuite interpellés par la police. Les voix dans la société civile qui réclamaient une réforme de la législation il y a une décennie se sont faites plus discrètes à cause des menaces venant de groupes islamistes radicaux. New Delhi, Emmanuel Derville, Radio Vatican.
Toujours au Pakistan, la saison de la mousson est particulièrement meurtrière cette année. Déjà 221 personnes mortes depuis la fin du mois de juin, dont la moitié sont des enfants. Le Pakistan est l'un des pays les plus vulnérables face aux effets du changement climatique. En 2022, près d'un tiers du Pakistan avait été inondé. C'est une vaste réforme de son armée qu'a entamé le Cambodge. Dans le contexte de tensions frontalières croissantes avec la Thaïlande, le Premier ministre Hun Manet prévoit l'augmentation du budget de la défense ainsi que la conscription obligatoire. Les nouvelles mesures annoncées la semaine dernière pour 2026 comprennent aussi un grand volet cyber. Le régime s'attaque au fléau de la cybercriminalité qui prospère en Asie du Sud-Est, non sans conséquences géopolitiques, comme nous l'explique la chercheure Sophie Boisseau du Rocher du Centre Asie de l'IFRI.
Le Cambodge est classé parmi les pays les plus corrompus au monde. C'est peut-être l'un des centres de la cybercriminalité mondiale, selon Transparency International. Et ça pourrait être aussi un effet des rapprochements amorcés depuis 20 ans par Hun Sen, donc le père du Premier ministre actuel, avec Pékin. Et de plus en plus sous l'emprise croissante de la Chine, le Cambodge est devenu également un centre de relais pour les cyberattaques chinoises. Donc voilà, en disant qu'il veut également lutter contre la cybercriminalité, Hun Manet cherche à reblanchir un peu les avantages du Cambodge pour les puissances occidentales, à un moment où la lutte d'influence entre la Chine et les États-Unis en Asie du Sud-Est gagne en intensité. N'oublions pas par ailleurs que le Cambodge a inauguré la base navale de Réam en avril 2025, donc il y a quelques mois, et que cette base navale a été financée en grande partie par la Chine. Donc c'est également, si vous voulez, une façon de dire qu'il n'est pas néanmoins aligné sur son partenaire chinois.
Sophie Boisseau du Rocher au micro de Delphine Allaire. Et comme tous nos dossiers quotidiens de la rédaction, cette interview est à retrouver sur notre site internet. Les mots de Léon XIV après la mort du cardinal français André XXIII, archevêque émérite de Paris vendredi dernier. Léon XIV fait part de sa proximité spirituelle et de sa communion à la famille et aux proches du défunt. Ce mardi, une journée de veille du corps de Mgr 23 a lieu en la cathédrale Notre-Dame de Paris où se dérouleront les funérailles demain à 10h. Merci de votre écoute. Retour de l'information demain à 8h30. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne après-midi.